Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr. Hello everybody, comment allez-vous en ce mois de décembre frileux? On espère vous trouver au mieux de votre forme et que cette fin d'année vous réservera de bonnes surprises au pied du sapin ou de l'arbre de votre choix finalement. Les fêtes et son cortège de bons manger et de papier doré sonnent à nos portes et notre émission vous proposera quelques idées pour garnir vos petits souliers. Au programme cette semaine, Jade Papagallo, musicienne et chanteuse, est sur notre plateau pour évoquer son clip et son projet musical qui prend forme depuis quelques mois. Pour suivre, l'invité de Guillaume se nomme Lou Nel et sera en concert le mercredi 21 décembre au bar associatif Le Temps des Noyaux. Gaël nous parlera de l'exposition Supernature chez Manifesta et nous terminerons avec nos Gédéons de la semaine, les idées cadeaux pour tous ceux qui manquent d'inspiration. On commence avec Jade Papagallo, musicienne et chanteuse. Vous êtes en promo, comme on dit, pour évoquer la sortie de votre clip « Rien à foutre », visible sur YouTube et sur toutes les autres plateformes. On vous entend chanter, mais surtout on vous voit danser. Le corps est le sujet de cette chanson et vous exprimez beaucoup de choses par la gestuelle. Quand on vous voit sur scène, vous jouez de la guitare. C'est difficile de s'exprimer corporellement. Le clip, est-ce une autre manière d'exprimer des émotions? Appuyer un discours, Jade Papagallo.
Bonjour, merci de me recevoir. Je suis extrêmement heureuse d'être là. Du coup, ce clip, le clip de ma chanson « Rien à foutre ici », m'a totalement aidée à exprimer via le corps, exactement. J'adore danser, c'est une passion pour moi et je pratique ça depuis toute petite. Et pour moi, c'est important que dans chacun de mes clips ou chacune de mes chansons, il y ait un mouvement ou qu'il y ait une chorégraphie qui soit récurrente ou en tout cas que chaque chanson ait sa chorégraphie ou que chaque chanson ait ses mouvements assez distinctifs et que ça devienne un peu culte au final, peut-être un jour, je ne sais pas, mais en tout cas c'est important pour moi de m'exprimer physiquement et corporellement, d'exprimer le sentiment de cette chanson qui était basée un peu sur la colère et la revendication et la révolte. Des gens m'ont dit, enfin j'ai eu plein de retours déjà, merci pour les personnes qui m'ont fait tous ces retours, c'était tellement, c'était très vivifiant. On m'a fait le retour suivant, on m'a dit que c'était super, que les gens avaient besoin de voir une femme assumer son corps, être aussi vive, aussi féroce dans ses mouvements, assez brutale et assez dans la revendication encore une fois. Et d'autres m'ont dit que je dansais trop fort, trop vite et que c'était beaucoup à prendre. On m'a même, j'ai une amie qui m'a dit c'est un peu comme si tu me donnais une pile d'assiette chaude et que tu me les mettais dans la main et que je devais en faire quelque chose, mais que ça brûle quoi, je sais pas quoi faire avec ça. Et c'est beaucoup à prendre d'un coup comme ça. Donc j'ai eu de tout. Et c'est hyper intéressant parce que c'est la première fois que je sors un clip avec une de mes chansons à moi. Mmh. Et je me suis confrontée à différents avis et je suis heureuse que les principaux avis ont été au minimum constructifs, si ce n'est exclusivement positifs, mais beaucoup aussi ont marqué des difficultés à apprendre ce que j'avais à proposer. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça parce que je suis tellement fière de ce projet, tellement fière de toutes les personnes qui ont contribué à ce projet et de l'effort fourni pour un tel résultat, pour un premier projet, que pour moi c'était tout, enfin tout était parfait quoi. Et le fait d'avoir des gens qui sont un peu réticents ou qui ont du mal à apprendre ou à accueillir ce projet là au début, ça m'a fait un peu froid, voilà, ça m'a
porté. Oui, mais alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas tiède, hein, voilà. Vous l'avez dit, les assiettes chaudes, hein, je rebondis hein, sur cette idée des assiettes chaudes, c'est une métaphore tout à fait intéressante. Le point de vue et la thématique, bien sûr, du clip que vous abordez, c'est aussi ce rapport homme-femme, hein, qui est compliqué, avec cette idée en fait de la virilité que vous revendiquez finalement dans votre clip. Dans l'interview que nous faisons, juste en dessous, il y aura le clip, tout le monde pourra le voir. Et effectivement, il y a bien cette idée de mimer la virilité masculine.
Eh ben, encore une fois, ça c'est une interprétation, donc merci de la partager. C'est vrai que je pense qu'on peut être totalement femme et totalement féroce aussi, ou en tout cas avoir des attitudes très oui, on peut dire brutales ou puissantes aussi. Et je pense que ce n'est pas réservé qu'aux hommes, effectivement. Et c'est vrai que quand je l'ai écrite, cette chanson, c'était pour un événement particulier qui avait le thème donc, du féminisme. Et je n'avais encore jamais écrit de chanson par rapport au féminisme en particulier, de manière totalement voilà, ouvertement féministe. Et c'était extrêmement bon parce que j'ai pu extirper des frustrations, de la colère. Et c'est vrai que après coup, 6 mois après, je me suis rendu compte, oh, j'ai dit ça comme ça, et puis j'ai dit ça comme ça, et j'ai fait ça, et machin. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que j'accepte totalement, et je suis totalement fière de ce projet, mais c'est vrai que je sais que j'aborderai le thème autrement les prochaines fois, mais il fallait passer par là, je pense, que voilà, je pète un bon câble, un bon coup, et qu'après on puisse adoucir et apporter plus de subtilité, parce que ça aussi, on me l'a un peu reproché, c'est que la chanson est assez terre à terre ou très simple, entre guillemets, dans les termes, où il n'y a pas beaucoup de métaphores, ou en tout cas, c'est des métaphores qui sont très peu subtiles, et je l'assume totalement, c'était pas le but d'être subtil du tout. Mais c'est vrai que l'énergie que j'ai mise dedans, elle était. Enfin.
Indispensable, ouais. On va le dire comme ça. On voit bien hein, que les mots ne sortent pas, mais on voit bien que le corps exprime beaucoup de choses dans ce clip, et nos auditeurs pourront voir ça. Vous parlez de votre projet. Alors, le projet, effectivement, c'est aussi quelque chose que vous défendez depuis quelques mois. Est-ce qu'un EP va sortir ? Comment ça se passe ? Parce qu'avant de faire un album, bah, faut d'abord faire un EP, hein, on le dit un peu comme ça, généralement, pour pouvoir peut-être toucher un certain public, commencer un petit peu à intéresser des salles. Donc, est-ce que c'est le parcours obligatoire ?
Je pense pas que ce soit obligatoire. L'objectif, c'est de faire un album et sortir des singles d'abord et après un album ou un double P ou un EP tout court, mais assez long. Pas que 6 morceaux ou 7 morceaux.
Comment on fait pour le financer ?
Comment on fait pour le financer ? Eh ben, intéressant comme question. Soit on contacte des labels indépendants ou des grosses majors qui acceptent de nous financer, qui croient en notre projet et qui sont prêtes à investir autant du temps que de l'argent.
Est-ce que ça se trouve facilement ?
Eh bien, je pense que oui, mais en même temps, il y a tellement de gens qui veulent percer, il y a tellement de gens qui sont sur le starting block et qui sont à l'affût du premier coup de fusil que c'est un challenge, mais je pense que chacun a sa place et on n'a pas à se battre pour sa place ou pour une place dans un tel endroit. C'est que si ça nous correspond, on y sera, il n'y a pas de problème. En tout cas, je suis de ce credo-là de me dire que si je dois co-signer des contrats, des contrats d'artistes ou des contrats de licence, etc., j'ai foi en ça, mais c'est vrai que je défends beaucoup plus le côté d'être artiste indépendante. Et je veux contacter, en tout cas, je veux collaborer avec des majors ou avec, en tout cas, des labels indépendants. Quand je serai solide sur mes appuis, que j'aurai déjà démarché des salles, que j'aurai déjà démarché des professionnels pour savoir comment ça se passe au niveau du business, au niveau de l'impression des CD, au niveau du merchandising, au niveau de plein de choses qui sont gérées souvent par des majors et par d'autres personnes, des personnes tierces. Et je veux pas juste être ballottée.
Pas être simplement un produit, finalement.
Exactement. Et ne pas subir les choix d'autrui, alors que c'est mon projet, c'est mon bébé, ça me tient à cœur et je veux être indépendante le plus longtemps possible. Et par contre, engager des personnes qui sont compétentes dans le marketing, dans la communication, dans tout ce qui est gestion de clips, réalisation de clips, etc. Enfin, voilà. Mais moi, je fais la démarche de mettre à bien mon projet.
C'est une bonne chose qui vous vient notamment de votre parcours. Je crois que vous avez étudié notamment en Angleterre. Est-ce que cette formation britannique de la musique vous a donné plus de choses ou des choses différentes que ce qu'on vous auriez pu étudier en France ?
Totalement, elle m'a changé la vie. Littéralement, elle m'a ouvert sur tellement de possibilités en tant qu'artiste, parce que déjà en Angleterre, le rôle, je dis bien rôle de l'artiste, est vu comme important et a une valeur dans la culture. En France, la vision de l'artiste, elle commence à changer. En tout cas, en francophonie, elle change grâce à des grands noms comme Angèle, Lucinda Yakuza, Iseult. Enfin, il y a plein de personnes qui font bouger les choses, que ce soit des personnes indépendantes ou en major. Mais c'est vrai que la vision de l'artiste en France met du temps à décanter, à se dire « Ah, en fait, ça a une valeur culturelle et ça fait bouger les choses d'être artiste. » Parce qu'il y en a qui ont des choses à dire. Et on le voit particulièrement, je trouve, avec Stromae ou Orelsan, qui défendent chacun leurs propos, leur projet, et c'est juste tellement inspirant. Mais c'est vrai qu'aller à Londres et aller dans cette école pendant un an m'a totalement bouleversée, et j'ai rencontré des gens qui voient la vie en tant que musicien et musicienne de la même manière que moi, qui ont la rage, qui ont envie de réussir.
Est-ce que la langue anglaise fait partie aujourd'hui de votre univers esthétique, poétique, plus qu'avant où vous partiez en Angleterre ?
Totalement. Après, avant de partir en Angleterre, j'étais déjà assez bilingue.
Donc le move, on va dire, britannique, la langue, le style musical, est-ce qu'il vous a influencé pendant cette année, justement, de cours, de formation ?
Totalement, parce que j'étais donc dans un cursus professionnalisant en tant qu'artiste qui s'appelle le Live Performance Diploma, qui se fait normalement en 2 ans, mais qui s'est fait en 1 an. C'était à la BIM, British and Irish Modern Music Institute. Donc j'étais à Londres et on avait des productions à fournir toutes les semaines, parfois 2 par semaine.
C'est une bonne école. Hein.
C'était incroyable. Je la recommande à toute personne qui veut être artiste, veut devenir artiste. Et donc, c'était très stimulant parce qu'on avait des cours de musique business, on avait des cours de production musicale, donc tout ce qui est MAO, on avait des cours de journalisme, on avait des cours de technique vocale, en l'occurrence pour moi parce que j'étais dans un cursus vocal, mais il y avait des techniques en tant que batteur, en tant que bassiste, etc. Il y avait des cours d'écriture de chansons, d'arrangement de chansons, et c'était extrêmement intéressant parce qu'on avait plein de pistes à exploiter pour créer et pour se trouver finalement, trouver son univers et trouver sa patte quoi, et se la faire à force au fil de l'année quoi. Donc c'était super.
Un EP en préparation, on l'a dit, les futures dates, vous commencez à démarcher, je sais que vous faites des bars en ce moment, vous produisez. Qu'est-ce que ça crée comme énergie ? Parce que effectivement, se produire en live dans une vraie salle de spectacle, c'est quand même un vrai kiff. Et puis vous êtes très doué pour ça.
Merci beaucoup. J'ai commencé la musique assez tôt et très vite, j'étais sur la scène, même dans mes écoles. On appelait ça des auditions à l'époque et il y avait les parents d'élèves, des gens de l'extérieur, de la famille, souvent des élèves qui venaient voir les auditions et donc les concerts. Et j'ai vraiment commencé par les concerts et après je suis allée en studio récemment, il y a 1 an à peu près, où j'ai commencé vraiment à faire du re-re, comme on appelle, donc du recording en boucle, pour enregistrer des morceaux. Et effectivement, les concerts, c'est une toute autre énergie parce qu'on crée un moment, alors qu'en studio, on perfectionne un moment. C'est Erika Badu qui l'a dit et je suis totalement d'accord avec elle. Et J'adore le contact avec le public. Ça me fait vibrer. Je sais que j'arrive à créer du lien avec le public et je reçois énormément d'amour et de soutien à la fin. Et récemment, on a joué à l'Alternative Bar.
Est-ce qu'il y aura d'autres dates ? Parce que mes auditeurs se disent, mais moi, j'aimerais bien voir Jade Papagallo en concert. Comment ça se passe ?
Les prochaines dates, elles se déroulent cette semaine-ci. Je joue avec mon autre groupe. Un autre groupe à moi de disco funk, on joue au Ninkasi de Bèze le 16 décembre prochain. Et voilà, mais pour le début de l'année 2023, rien n'est encore sûr, c'est encore en phase de démarchage, mais normalement j'ai des dates qui sont prévues pour mars.
Très bien, vous allez revenir nous en parler, on viendra voir vos concerts. Merci beaucoup Jade Papagallo d'être venue nous rencontrer, merci beaucoup.
Merci à vous, merci pour tout, merci pour le soutien et merci de m'avoir accueilli Gaëlle, merci beaucoup.
Bonjour Guillaume, ton invité se nomme Lounel et sera en concert le mercredi 21 décembre au bar associatif Le Temps des Noyaux. C'est à peu près tout ce que je sais d'elle, je vous laisse pour en découvrir davantage évidemment.
Alors bonjour Lou, effectivement tu joues au Temps des Noyaux, c'est beau parce que c'est pas le Temps des Cerises, c'est le Temps des Noyaux. Ça se trouve où ça, le Temps des Noyaux ?
C'est à Bourg-en-Bresse.
À Bourg-en-Bresse.
Alors, un petit bar associatif.
Moi je t'avais vu ici même puisque nous sommes au Théâtre Comédie Odéon et tu avais participé à la finale du tremplin à tout bout de champ et c'est comme ça que je t'avais découvert et j'avais très envie en fait de te rencontrer depuis ce tremplin et entre temps eh bien il s'est passé plein de choses pour toi parce que tu as fait plein de concerts et puis tu viens sortir un EP. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton cheminement entre le tremplin et puis voilà, tout ce qui s'est passé en très peu de temps, finalement?
Et bah, y a eu le tremplin fin juin, à peu près. Et puis après, tout est allé assez vite parce qu'il y a eu... je suis partie en fait en vacances en Bretagne. J'en ai profité pour faire une sorte de tournée. Donc là-bas, il y a eu une vingtaine de dates. Et en rentrant, il y a eu directement les premières parties au musical des Parcs des Oiseaux. Donc en première partie de Christophe Maé, puis de Ben Mazué.
Ah oui, c'est quand même pas mal ça, d'arriver quand en première partie de ces deux gros artistes.
C'était assez impressionnant, oui.
Ouais. Et alors, mais ça, comment ça s'est fait en fait?
En fait, c'est pendant le confinement, enfin pendant les deux confinements, j'ai fait une vidéo par jour sur Facebook en mettant une chanson à chaque fois. Et on a dépassé les 200 vidéos en un an. Et le programmateur en fait, des musicales m'a suivi comme ça. Et après, j'ai gagné une masterclass d'écriture.
D'accord.
Avec Ben Mazué à Sony Music à Paris. Et puis, le lien s'est fait comme ça, comme il était programmé. Il m'a proposé. Et Christophe Maé aussi. Donc,
d'accord. Voilà. Ça veut dire que tu as travaillé sur des textes avec Ben Mazué?
Ouais, un petit peu. Mais c'était surtout un échange d'histoire de vie, quoi.
D'accord, plutôt. Ouais. Ouais, et t'apprécies un petit peu sa façon d'écrire? C'est particulier quand même, Ben Mazué.
Ouais, c'est particulier. Après, je pense qu'aujourd'hui, quand on aime la chanson française et en même temps le côté moderne, il porte vraiment quelque chose de ce côté-là, quoi. Donc, bah, moi, c'est un artiste que j'aimais beaucoup. Et
d'accord.
Puis, de le rencontrer, ça crée un lien qui fait que je l'aime encore plus maintenant.
Ouais. Alors, principalement, tu fais guitare-voix. Tu nous disais en aparté tout à l'heure que bientôt, tu vas avoir un guitariste sur scène pour te libérer un peu des contingences matérielles. Mais donc, comment tu as composé finalement cet EP qui a 4 titres plus... une chanson, une version édite, comme on dit, pour la radio.
Oui, voilà.
Je ne sais pas si y aura des grosses radios qui viendront prendre ce titre. Mais comment tu as envisagé... c'était des chansons qui étaient déjà écrites ou tu les as écrites spécialement pour ce format-là?
En fait, c'est un EP qui a été fait pour avoir une présence sur les réseaux sociaux avec l'arrivée des grosses dates qu'il y a eu, qui sont arrivées là, les premières parties. Et donc il a été fait, bon, il y a des chansons qui étaient déjà dans ma tête et qui existaient déjà, que je jouais déjà. Il y en a d'autres qui ont été plutôt composées pour cette EP. Et en fait j'ai eu la chance de travailler avec la Tannerie, qui est la salle de musique actuelle de Bourg-en-Bresse, et qui m'ont mis en lien avec des arrangeurs, des musiciens qui m'ont aidé dans mes arrangements, dont bah, il y a un guitariste qui joue aussi du banjo, du lap steel, tout ça. Il y a un pianiste. Puis on a créé un peu tout un petit univers là-dessus et c'était un peu le but de stopper, c'est que ça soit une première approche du studio pour moi et une première présence aussi de ce côté-là, quoi.
D'accord. Alors tu sais qu'en France on aime bien mettre les gens dans des cases. Alors je ne sais pas quel genre. Je sais bien, je déteste moi aussi les cases. Mais disons pour décrire un petit peu ce que tu fais, un peu musicalement, c'est plutôt folk, on va dire ça comme ça. Même si oui, folk, oui, mais en français.
Ouais, c'est
donc,
ça. Je sais pas, en fait moi j'ai la phobie des cases, alors je sais que souvent on me met dans la chanson française, pourquoi pas, après je trouve, bah, y a aussi beaucoup de folk, des fois on me dit folk français, donc on me rapproche plutôt des styles canadiens, en même temps il y en a qui rapprochent aussi du rap, donc pourquoi pas. Et puis moi ça me dérange pas en fait d'être un peu dans tous les styles, c'est pas quelque chose qui...
Ah bah peut-être, je sais pas, tu peux nous parler d'inspiration, des gens que... Peut-être que tu apprécies énormément, mais pas forcément pour créer finalement, parce qu'on peut apprécier des gens sans forcément s'en inspirer finalement.
Bah, c'est très éclectique aussi en fait, ça part dans tous les sens, il y a de la chanson française, mais je dirais que c'est des choses qui m'ont plutôt bercée et qui sont... J'en écoute beaucoup aujourd'hui, mais c'est pas fondamental aujourd'hui pour moi. Il y a beaucoup de folk et chansons américaines, canadiennes, tout ça. Il y a du rock... Il y a aussi de la pop quand même, et puis il y a beaucoup de rap, mais au niveau du texte en fait, du slam.
Voire même tu pourrais nous citer quel rappeur tu apprécies?
Quel rappeur j'apprécie? Alors j'écoute de tout, Gelfay bien sûr, des vieux rappeurs, MC Solar.
D'accord, oui, alors donc des rappeurs, mais qui sont des rappeurs avec des textes
voilà,
qui sont assez ciselés, d'accord.
C'est ça.
Alors moi je, dans une de tes chansons, je crois que c'est dans Rue, qu'on écoutera tout à l'heure finalement.
Oui.
Tu dis, il me semble que c'est dans celle-ci, je veux m'entendre vivre. Et je trouve que cette phrase, elle résume bien un petit peu ton projet en fait. Je trouve, voilà, ça veut dire, enfin de ce que je comprends, je veux m'entendre vivre, ça veut dire je veux écrire des chansons. Finalement c'est vital et je veux faire ça pour exprimer quelque chose qui est très très viscéral en fait.
Oui, bah la musique, je pense que j'ai un rapport à la musique qui est très fort, des fois peut-être trop fort. Dire que c'est un peu viscéral pour moi et donc l'écriture aussi. Et c'est un peu ma manière de me sentir vivre. Je sais pas si c'est très clair, mais quand je dis m'entendre vivre, c'est ça en fait. C'est des choses que j'arrive pas à vivre autrement et dans la musique, je veux vivre comme ça.
Et pour rebondir, je trouve que le titre de l'EP à fleur de mots, évidemment, il y a un petit jeu de mots, voilà, ça va dans ce sens, à fleur de peau, donc voilà, il y a quelque chose de viscéral. Alors, encore une fois, pour rebondir sur un de tes textes, la première chanson de l'EP, encore, alors encore, pareil, encore un jeu de mots, mais en plus loin corps, le corps humain, j'ai amené un livre d'une certaine autrice un peu plus connue désormais, Brigitte Giraud, qui a eu le prix Goncourt pour Vivre Vite, mais qui a écrit il y a assez longtemps un livre qui s'intitule « Avoir un corps ». Et qui relate un petit peu, ben voilà, tous les changements du corps quand on est une jeune fille, puis une femme, et voilà. Et donc ça pose voilà plein de questions. Donc j'aimerais bien que tu rebondisses un petit peu sur ta chanson, sur cette thématique.
Mais je pense que c'est la chanson la plus intime de l'EP et des chansons les plus intimes que j'ai écrites tout court en fait. Je pense que ça parle du rapport au corps. Mais c'est très global en fait, et c'est aussi, ça revient à parler de la musique, dans le sens où c'est ma manière à moi de me sentir bien, et voilà, on n'est pas toujours très à l'aise dans son corps et avec qui on est, et c'est un moyen pour moi, la musique, d'être plus à l'aise avec ça, et encore ça parle de ça, ça parle de des fois un corps qu'on n'arrive pas à porter en fait, et que la musique aide à porter mieux. Je sais pas si je suis très claire. Je déteste expliquer mes chansons parce que souvent, si je le dis en chanson, c'est que j'ai du mal à expliquer en vrai. Donc, c'est ça à peu près.
Alors, on a dit que tu jouais donc dans ce bar associatif, mais il y a une grosse date quand même qui s'annonce aussi, une très belle date, puisque tu vas jouer le 25 février, je crois, en première partie de Jeanne Adède à la Tannerie.
Oui.
Alors, qu'est-ce que ça fait de... Alors, bon, maintenant, t'es habitué, Christophe Mahé, Ben Mazuet, bon, bah, Jeanne Adède, pourquoi pas. Et Jeanne Adède, c'est quand même une femme qui a une personnalité justement assez forte. Alors elle fait pas du tout le même genre de musique, mais qu'est-ce que ça t'évoque finalement de faire cette première partie ?
Et bah, moi, je suis très contente parce que déjà c'est une femme, c'est vrai, et j'ai plutôt joué en première partie d'hommes, parce que même des premières parties un peu moins connues, mais j'ai fait Gauvrache, Baptiste de Ventadour, tout ça. Et donc là c'est une femme, donc ça je suis contente de ça. Après on n'a pas du tout le même style. C'est vrai, elle chante en anglais, elle chante en français, elle fait de la pop, elle est plus de la chanson, elle est plus électro, je suis plus acoustique. Mais je pense qu'il y a ce côté un peu... je sais pas si je suis comme ça, mais que j'essaye de cultiver le côté atypique et puis le côté sensible. Et je pense à un public assez sensible aussi. Et c'est ça que je pense qu'il va peut-être nous rejoindre un peu. Voilà.
Très bien, montre merci. On va t'écouter dans un morceau qui s'intitule « Rue », qui évoque une ville, on n'en dit pas plus. Voilà.
Je marchais dans les rues de Paris, marchais ici, moi j'y connaissais rien. Poser mes pieds dans la capitale et comprendre qu'en campagne, c'était pas si mal. La vie parisienne, elle me ressemble pas. Courir dans le métro, le train-train quotidien. Croiser que des gens qui ne vous regardent pas, de station en station, je sais pas ce que je fais là. La musique comme un écho soutient mon cœur, murmure des mots de rue en rue, de cœur en cœur. Avec ma voix, je crie da 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 da. Toujours à Paris et toujours inconnu. Ma guitare à la main et les poches trouées. Des idées plein la tête mais les yeux fatigués. De chanson en chanson, d'émotions en frisson. Mon regard posé sur mes doigts écorchés. Des notes qui fuient de ma bouche asséchée. Des cris qui s'échappent pour pouvoir exister. La musique comme un écho soutient mon cœur, murmure des mots de rue en rue, de cœur en cœur. Avec ma voix, je crie da 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 sans micro que je tiens ce tempo. Si mon corps est petit, ça ne l'empêche pas de dire que j'écrirai toujours et chanterai mon amour au coin de cette rue à tous ces inconnus. C'est pas qu'une chanson et c'est bien plus qu'un son. C'est le bruit de ma vie, des voix à l'unisson. Si je chante jusqu'ici, jusqu'à m'en rendre ivre, c'est juste parce que je veux m'entendre vivre. Je veux m'entendre vivre. La musique comme un écho soutient mon cœur, murmure des mots de rue en rue, de cœur en cœur. Avec ma voix, je crie da 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 da.
Merci beaucoup. Alors, je rebondis, tu vois, quand tu disais tout à l'heure que tu aimais le hip-hop, je trouve que là, dans cette chanson, voilà, quand il y a des breaks et que tu joues plus la guitare, et voilà, c'est chouette. Et puis, je dis aux auditeurs aussi, parce que ça, peut-être qu'on le verra sur les photos, tu as une super guitare rose, hein, un peu roots, hein, qui a beaucoup voyagé. Qui s'appelle Ginette, non ? Elle s'appelle Ginette. Ah bah oui, exactement, autant pour moi. Ginette.
La guitare de Lou s'appelle Ginette, voilà. Je crois qu'on peut
et
le dire.
Et on remercie aussi tous les Parisiens, évidemment. Merci beaucoup en tout cas, Lounel, le 21 décembre, au Temps des Noyaux, à Bourg-en-Bresse.
Gaëlle, cette semaine, tu nous fais découvrir une exposition collective et thématique chez Manifesta, intitulée Super Nature. On t'écoute nous faire découvrir de quoi il s'agit. Je pense qu'il ne s'agit pas de Marc Cerron avec une chanson qui s'appelait Super Nature.
Pas du tout. Manifesta, je vous en avais déjà parlé. Hein, c'est situé à côté du Musée des Beaux-Arts de Lyon, dans un ancien atelier de Soyeux. Et c'est un espace événementiel dédié à l'art contemporain au service des entreprises. Sa fondatrice, Céline Melon-Sibylle, propose un modèle culturel pluridisciplinaire unique, basé sur des moments d'échange, de rencontres et des événements qui désacralisent le rapport à l'art. L'actuelle exposition, intitulée « Super Nature », est programmée en résonance de la Biennale d'art contemporain de Lyon, que j'avais déjà chroniquée et qui se termine, je le rappelle pour les retardataires, le 31 décembre, soit à la fin du mois. Pour Super Nature, Manifesta invite la galerie parisienne Valérie Delaunay, galerie engagée dans la promotion d'artistes émergents. Les œuvres font écho à la thématique de la Biennale de Lyon, manifeste de la fragilité, et offrent une ode à la contemplation de la nature dans ce qu'elle a de plus vulnérable. Supernature convoque plusieurs médiums, depuis la peinture figurative, axe majeur de la galerie Valérie Delaunay, jusqu'aux techniques artistiques les plus atypiques qui soient. Ces médiums nous interrogent tout d'abord peinture. Dès l'entrée du parcours de l'exposition, la dubitation vous gagne. Peinture ou photographie ? Assaillie par cette ambiguïté, c'est scrupuleusement que vous sondez les œuvres de Sylvain Polony. Paysage cadré en vue aérienne ou abstraite cartographie ? On oscille entre réalité et fiction et reconnaissance du médium effectivement utilisé. Voyage méditatif garanti au sein de ces compositions rehaussées d'une mystérieuse matérialité qui serpente entre oxydation, abrasion et corrosion. Autre œuvre qui interloque, les sculptures tout en torsion de Claire Linner. Vos yeux ne sachant pas évaluer le matériau, le désir de toucher se fait ardent. Après avoir lancé un SOS à la fonction haptique pour trancher, l'interrogation est résolue. Ce n'est pas un textile feutré, mais du grès émaillé. Cette illusion de l'artiste céramiste fait songer à un univers marin avec des algues moirées qu'une force ascensionnelle animerait. Sur le mur jouxtant le superbe escalier en bois de Manifesta, Claude Como déploie amplement la technique du tufting, de l'anglais tuft signifiant touffe, donc technique du touffetage en français. Le tufting repose sur l'insertion de différents fils de laine dans une toile à l'aide d'un pistolet spécifique. Chez Claude Comeau, la nature est tridimensionnelle. La progression de ses arbres en volume et aux couleurs fauves ressortent vivement sur le mur bleu clin de la montée d'escalier de Manifesta. Pour Martine Schlidge, les paysages naissent de dessins piquetés. Le rendu est proche de la structure alvéolée de la roche volcanique ou du lichen avec ses petits trous. Univers minéral ou aquatique, la frontière est poreuse, tout comme la matière créée par l'artiste. Ces minutieuses sculptures de papier laissent là encore l'observateur dans une fructueuse perplexité. Je ne peux évoquer tous les artistes, mais sachez que Supernature regorge d'autres médiums et techniques atypiques. Cas des dessins en graphite poudre, graphite crayon et ombre à paupières d'Hélène Mounheim. Cas du verre exploité sous toutes ses possibilités entre rigidité et fragilité par Julie Legrand. Cas encore de l'assemblage d'épines de pin des Landes de Gertrude Varaillon. Ou pour finir, cas du travail d'Isabelle Bisson-Mauduy qui coud, brode et articule le fil en sculpture arborescente. L'exposition Supernature est programmée chez Manifesta jusqu'au 2 mars 2023. Plus d'informations sur manifesta-lyon.fr.
Merci beaucoup Gaëlle. Effectivement, on comprend mieux le titre, Supernature. Exactement. Effectivement, il ne s'agit pas de musique. On se retrouve juste après pour nos jeudéons. Eh bien, nous allons arriver au moment tant attendu de cette émission par nos auditeurs, j'en suis absolument persuadée, c'est-à-dire nos Gédéons, c'est-à-dire nos préconisations du moment. Qu'est-ce que tu as retenu, Guillaume ? De quoi as-tu envie de nous parler ?
Alors, moi, je crois que c'est la première fois que je vais parler d'un film de cinéma. Je parle de disques, je parle de livres, mais là, un film que j'ai vu en avant-première la semaine dernière dans l'excellent cinéma Le Comédia, en présence de son réalisateur, Ilnur Palmason, qui est donc dano-islandais, il est plutôt islandais, je crois. Et donc son film s'appelle Godland. Alors, pas de mauvais esprit. Godland, ça évoque, ça parle d'un prêtre à la fin du 19e siècle, un jeune prêtre danois qui arrive en Islande avec pour mission de construire une église et photographier la population. Il arrive au 19e avec un gros appareil photo, on est au 19e siècle, la photo existe depuis 30-40 ans. Mais plus il s'enfonce dans le paysage impitoyable de l'Islande, plus il est livré aux affres de la tentation et du péché. Alors ça rappelle un peu Mission finalement avec Robert De Niro, mais c'est beaucoup mieux. C'est une grosse claque. Le film dure 2h23. Moi je m'étais dit, vu la thématique, ça va être un petit peu longuet. Non, c'est un film extraordinaire d'abord par ses images. Il y a toute une première partie avec des paysages islandais qui sont extraordinaires, où il y a très peu de dialogue. Alors dit comme ça, ça fait peur. Mais en fait non. Il y a un gros travail sur l'image, sur le son. D'ailleurs la bande-son est extraordinaire. Je vous recherche le nom de ce compositeur né à Taipei qui s'appelle, ça y est, j'ai un trou, je le trouve, Alex Zhang Ungtai, qui jouait dans un groupe de rock qui s'appelait Dirty Beaches, beaches comme les plages et non pas comme les ce que vous pensez. Enfin voilà, la musique est géniale parce qu'elle est presque, enfin elle est très moderne, très contemporaine. Le film n'est pas du tout contemplatif. Les acteurs sont extraordinaires vraiment et ça pose plein de questions sur, le péché entre guillemets, voilà, parce qu'il va y avoir des tentations, ce prêtre, voilà. Mais c'est un très beau film. Moi, je m'attendais pas à ça. C'est une claque visuelle, c'est une claque sonore, c'est une claque presque métaphysique, en fait. Donc, vraiment, il faut aller voir Godland. Et ça sort le mercredi 21 décembre. Donc, vous allez au cinéma l'après-midi et le soir, vous filez à Bourg-en-Bresse voir, écouter Lounel à la tannerie. Non, pas la tannerie, au bar associatif Le Temps des Noyaux. Voilà.
Merci beaucoup, Guillaume. En tout cas, ça donne très envie. L'affiche est splendide. On peut le dire. Et effectivement, il y a un petit côté Roland Joffé. Quand j'ai vu l'affiche, j'ai pensé pratiquement immédiatement à ce film magnifique qu'est.
Oui, mais Mission. C'est moins démonstratif, c'est beaucoup plus contemplatif, mais sans que ça soit rasoir, quoi.
Mais vraiment, mais je pense que les paysages de l'Islande doivent jouer un rôle absolument majeur. Gaëlle, de quoi nous parles-tu cette semaine ?
J'ai commencé par une question. Qui a fait entrer pour la première fois le 9e art, la BD, à l'Académie des Beaux-Arts ?
Oh là 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 là, tu peux répondre, toi ?
Je donne la réponse ?
Ouais.
Catherine Meurice, intronisée le 30 novembre dernier dans l'illustre institution. Mois de novembre, d'ailleurs résolument riche en actualité pour l'autrice, qui sortait également son dernier opus intitulé « Humaine, trop humaine » aux éditions d'Argo. Cet album est né d'une invitation faite en septembre 2017 par la revue Philosophie Magazine, qui publie chaque mois « Humaine, trop humaine », une rubrique de 2 pages écrite et dessinée par Catherine Meurice. L'autrice précise « Cette invitation m'a réjouie et honorée car je suis lectrice de Philosophie Magazine depuis longtemps. Combien de fois l'ai-je compulsée pour confirmer une intuition ou souligner une citation qui allait ensuite se développer dans l'un de mes albums ?» Même si Alexandre Lacroix, rédacteur en chef de Philosophie Magazine, a toujours donné carte blanche à Catherine Meurice, l'accord était latent. La rubrique allait être drôle et décalée. Mon Gédéon de la semaine est donc l'album « Humaine, trop humaine », la compilation de cette fameuse rubrique mensuelle. Le sticker sur l'album précise « On ne naît pas philosophe, on le devient ». Clin d'œil à « On ne naît pas femme, on le devient » de Simone de Beauvoir figure également présente dans l'album. Humaine trop humaine nous entraîne dans un exercice humoristique de philosophie où Catherine Meurice se met elle-même en scène, soit une figure féminine de notre époque, animée de questionnements contemporains et confrontée aux grands penseurs et penseuses, 46 au total. Dérision, l'autrice jongle avec les concepts même les plus ardus, et autodérision, elle assume le fait qu'elle ne maîtrise pas tous les concepts, son approche est truculente. Chez Catherine Meurice, les méditations métaphysiques de Descartes sont présentées à l'aide d'un morceau de cire dans un institut de beauté. L'abécédaire de Deleuze est mis en scène chez l'ophtalmologue, l'examen dure donc des heures. Héraclite est victime de son proverbe « Nul homme ne se baigne 2 fois dans le même fleuve » car la seconde fois, chez Catherine Meurice, l'eau est plus que polluée. Spinoza est invité à un tuto gastro axé sur le séparatisme. Aristote manie la novlangue du design graphique citant à l'envi « quick win » ou « couleur win-win » qui merge bien. L'allégorie de la caverne de Platon se trouve parasitée par Netflix. Jean-Paul Sartre nous illumine avec l'être et le néon. L'idée de la société de consommation de Baudrillard est épinglée à travers les produits dérivés d'une boutique de musée. Emmanuel Kant chante au karaoké « Quand la musique est bonne » et Darwin dialogue sur Zoom. On rit beaucoup et on s'instruit tout autant. Les grands concepts philosophiques n'ont jamais été autant confrontés à de tels ressorts comiques. Je rappelle les références « Humaine, trop humaine » de Catherine Meurice aux éditions d'Argo.
Merci beaucoup Gaëlle, ça c'est un super cadeau de Noël, hein. Je retiens en tout cas, je pense que je sais à qui je vais offrir ça, merci beaucoup. Alors moi je termine avec, pour ma part, il s'agit bien évidemment d'un petit clin d'œil au retardataire des cadeaux de Noël. Je vous propose d'offrir une carte, pas n'importe laquelle. Évidemment, pour ma part, il s'agit de vous parler d'un dispositif de la ville de Lyon. Vous allez me dire que ça fait pas très cadeau, un dispositif. Eh bien si, c'est un super cadeau que bien des curieux aimeraient avoir dans leur poche. Je vous propose d'offrir une carte que je qualifierais de magique. Une sorte de carte magique, celle des musées de notre ville. La carte musée permet d'accéder de façon illimitée aux collections permanentes et temporaire de 6 musées municipaux. Le musée des Beaux-Arts de Lyon, le musée d'art contemporain, le musée Gadagne, le musée de l'imprimerie et de la communication graphique, le centre d'histoire de la résistance et de la déportation et le musée de l'automobile Henri Malartre. La carte musée offre un accès coupe-file au musée des Beaux-Arts et au musée d'art contemporain. Rien que ça, c'est-à-dire vous montrez votre carte, même s'il y a 1 heure de queue pour rentrer à L'Amour et Poussin, eh bien vous rentrez au musée. Bon, d'accord, il n'y a pas toujours 1 heure de queue au musée, je suis d'accord. La carte musée donne également accès au tarif réduit de 6 € sur l'entrée du musée des Confluences. Et ça, c'est pas rien. Et de 4 € au musée Jean Couty. Bref, la carte musée est valable 1 an, date à date. Elle est strictement personnelle, il faut une petite photo. Elle coûte, elle coûte 25 euros. Non, mais franchement, c'est quoi un cadeau de... Voilà, et Gaëlle me montre qu'elle a sa carte musée. Bon, voilà. Un cadeau à 25 euros où vous rentrez gratos dans les musées de Lyon, franchement, c'est un très, très beau cadeau à faire à vos ados, à faire à votre mari, à faire à votre belle-maman, à faire à votre beau-papa, à votre tonton Lulu. Bref, j'en sais rien. Tous les curieux, tous ceux qui aiment se promener dans les musées, les lieux magiques que sont les musées. C'est un lieu calme, c'est un lieu où tout est beau, où personne ne vient vous embêter, tout le monde parle bas. Mais quel bonheur, les musées! Pourquoi on ne vante pas plus l'endroit que sont les musées? Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, bien sûr. À bientôt! J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaëlle Bossier-Lombard à retrouver sur liondemain.fr.